Alors, bienvenue à chacun cet après-midi, même ceux qui sont au fond. J'espère que vous êtes venus pour que le Seigneur vous parle et nous parle à l'écoute de son esprit. J'ai envie de dire, on a eu le privilège d'avoir une belle journée. On a eu le privilège d'avoir la liberté de venir. La santé, et c'est vrai qu'on veut penser à ceux qui ne l'ont pas, qui ne sont pas bien en ce moment, à Freddy spécialement. On a Emmanuel qui est avec nous cet après-midi, ce soir, demain matin, on se réjouit. Je vais demander qu'il nous présente un petit peu plus aussi France Évangélisation, et le travail qui est un peu fait par l'équipe. Donc Frédéric Travi en fait partie, Emmanuel aujourd'hui. On a eu Emmanuel avec nous au Col des Mosses, c'était ça, hein, pour un week-end d'église, il y a... bien longtemps. Plus de 10 ans, je crois, non? Ouais, plus de 10 ans. Je propose qu'on prie avant de commencer la réunion. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, tu l'as dit, tu es présent. Et nous sommes rassemblés en ton nom cet après-midi. Seigneur, bénis ton serviteur. Ouvre nos cœurs. Seigneur, donne-nous de comprendre, de mettre en pratique, de te rendre gloire par nos vies. Merci pour ces moments privilégiés, Seigneur, ces études. Seigneur, te prions aussi pour ceux qui ne sont pas là. On a parlé de Freddy tout à l'heure, dans sa souffrance, Seigneur, tu veux l'assister aussi, Paulette, toute la famille, d'autres aussi, Seigneur, qui souffrent peut-être moins, mais qui pour lesquels ce n'est pas facile. Que ton esprit les assiste aussi. Seigneur, tu es fidèle, tu es saint, tu es juste. Nous te verrons un jour face à face et nous nous réjouissons de t'appartenir. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Et peut-être juste encore dire que ce soir, on aura un moment de chant, de louange avant la prédication. Je te laisse la place, Emmanuel, avec plaisir.
Bien écoutez, vous êtes bien courageux de venir un samedi après-midi avec un si beau temps au mois de novembre. C'est vrai que c'était il y a plus de 10 ans, je crois, que j'étais avec votre assemblée et c'était au tout début de mon ministère. Je devais être dans mes petits souliers, je suis toujours dans mes petits souliers. Mais c'est avec une grande joie et un grand plaisir que je me retrouve parmi vous cet après-midi pour ce temps d'étude, ce temps de réflexion aussi, ce temps d'interpellation que nous voulons passer autour de la parole de Dieu et que nous voulons passer autour de ce thème de la personne du Saint-Esprit. Alors vous savez, le Saint-Esprit, je réfléchissais dans la voiture en venant et je me suis dit, parler du Saint-Esprit, c'est finalement très difficile. Parce que Dieu le Père, lui, c'est plus ou moins facile parce que le Père, on a tous un Père. Donc on s'imagine facilement la figure du Père. Donc parler du Père, on a tout de suite une image qui nous vient devant l'Esprit ou à l'Esprit. Parler du Fils aussi, le Fils est incarné, et donc parler du Fils, c'est quelqu'un de tangible, une personne tangible. Par contre, lorsque nous abordons la question de la personne du Saint-Esprit, c'est beaucoup plus difficile, parce que l'Esprit Saint, c'est lié aussi à notre vécu, à toutes les idées, à toutes les représentations que nous avons aussi de la personne du Saint-Esprit. Et puis dans l'Écriture, l'Esprit est comparé à un souffle, à du vent. Le vent, nous ne le voyons pas, nous en ressentons les effets, mais impossible de nous saisir. À de l'eau, l'eau aussi, l'eau nous la voyons, mais impossible de la saisir. Au feu, le feu, nous le voyons, nous ressentons sa chaleur, il peut nous brûler aussi. Par contre, impossible de saisir le feu. Et donc à partir du moment où nous abordons la question du Saint-Esprit, c'est plus difficile. Et parfois nous autres évangéliques, j'ai remarqué, nous parlons très facilement de Dieu le Père, nous parlons facilement de Dieu le Saint-Esprit, de Dieu le Fils, pardon, et nous avons des difficultés à parler de la personne du Saint-Esprit. Et nous avons laissé le soin aux charismatiques, aux pentecôtistes, à tous ceux qui insistent sur l'expérience de l'Esprit, nous avons presque laissé l'exclusivité d'en parler. Alors que l'Esprit Saint, comme nous allons le voir, est la propriété de personne. L'Esprit Saint s'appartient à lui-même, il appartient à Dieu, et il est, je dirais, à chaque chrétien. chaque chrétien qui se tourne vers Jésus-Christ peut faire l'expérience de l'Esprit-Saint. Donc ce temps d'enseignement autour de la personne du Saint-Esprit, nous allons le diviser en trois parties. Maintenant, ce soir, où je prendrai du temps aussi pour me présenter, pour présenter l'association avec laquelle je travaille, et puis demain matin, nous aurons ensemble un troisième temps. Premier temps d'enseignement que nous allons avoir cet après-midi s'intitule « Vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Ensuite, ce soir, nous allons aborder ensemble la question du renouveau de l'Esprit-Saint. Et demain matin, nous parlerons ensemble de la question tant controversée parmi les chrétiens, la question des dons du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, l'Esprit-Saint se fait connaître à nous, surtout au travers de ses dons. L'Esprit, nous ne pouvons pas le voir. Par contre, ce que nous pouvons vivre, ce sont les effets de l'Esprit. Et donc, nous parlerons de cela ensemble demain matin. Et certainement que tout à l'heure, à la fin de mon intervention, et peut-être aussi ce soir, on prendra un temps s'il y a des questions, s'il y a des réflexions par rapport à ce qui a été dit. Est-ce que ça vous convient ainsi? C'est bon? Alors, on y va directement. J'aimerais encore prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci, nous te disons notre reconnaissance parce que tu es celui qui veille sur nous. Nous te disons merci Seigneur aussi parce que tu as envoyé ton Esprit Saint pour transformer nos vies, pour nous permettre de mieux te connaître et pour nous aider à vivre cette expérience aujourd'hui avec toi. Seigneur, de la même manière que nous avons besoin du Fils, que nous avons besoin du Père, nous avons aussi besoin de l'Esprit Saint. Et nous avons besoin de le connaître d'une manière toute nouvelle. Et ma prière en ce début de week-end, de ce temps que nous allons passer ensemble, c'est que tu nous permettes, Seigneur, à travers ta parole, à travers ce qui sera dit, à travers toutes nos faiblesses aussi, à travers le fait que nous nous sentons parfois si petits, si indignes de toi, nous te prions, Seigneur, et je te prie que tu nous permettes d'expérimenter, de vivre, de comprendre quelque chose de frais, de neuf, qui nous permettra d'avancer avec toi, qui nous permettra de redécouvrir ou de saisir une dimension qui nous a échappé jusqu'à aujourd'hui. Peut-être une dimension qui était toute proche de nous, mais à cause des œillères que nous avons, à cause d'un certain enseignement peut-être, ou de certaines croyances, d'une certaine lecture de ta parole, nous sommes passés à côté de quelque chose. Je prie cela pour chacun d'entre nous, et je prie cela pour moi aussi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Une histoire très courte, ou plutôt une tranche de la vie de Nicolas, ou Niccolo plutôt Paganini, qui était un des plus grands violonistes. Un soir, alors qu'il était dans une tournée, il s'est avancé sur la scène sous l'ovation du public, et alors que tout le monde était en train de l'applaudir, de l'ovationner, qu'il s'apprêtait à commencer son récital, il a réalisé qu'il y avait un problème ce soir-là. Et le problème était très simple. Le violon qu'il avait entre ses mains, c'était pas son violon. Alors comment est-ce que c'est arrivé? J'en sais rien. En tout cas, il a commencé à transpirer, des gouttes de sueur ont perlé de son front, et il s'est dit, mais comment est-ce que je vais faire pour m'en tirer? Impossible de faire marche arrière, impossible d'aller dans sa loge et de prendre son violon. Tout le monde attendait qu'il commence son récital, son concert. Et effectivement, il a joué. Et ce soir-là, il a joué d'une manière admirable. Tout le monde l'a applaudi à la fin, et lui-même dira de ce concert, c'est certainement l'un des meilleurs concerts que j'ai jamais donné. De retour dans sa loge, il a partagé avec plusieurs amis qui le suivaient, et il s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ce soir-là, il a dit ceci, il a réalisé que la musique, enfin jusqu'à ce jour-là, ou à ce soir-là, il était persuadé que la musique se trouvait dans son violon. Et que lui, son objectif en tant que musicien, c'était de permettre à cette musique, à ce vieux violon, ce vieux Stradivarius, de pouvoir pleinement exprimer tout ce qui était en lui et de faire ressortir cette musique-là. Seulement ce soir-là, il a pris conscience que la musique ne se trouvait pas dans le violon, même si l'instrument lui-même est important, et nous le savons, mais que la musique se trouvait en lui. Et il a compris quelque chose d'important alors qu'il était déjà... Il avait déjà un certain âge, et alors que c'était un artiste, un musicien de renommée mondiale. Voyez-vous, j'ai parfois l'impression que nous autres chrétiens, nous sommes un peu comme ce musicien. Nous ne sommes peut-être pas aussi connus, mais nous aussi, nous courons à droite, à gauche, dans des réunions, dans des rassemblements. Combien de fois, dans le cadre de mon ministère que j'exerce en France ou alors à l'étranger, j'ai des chrétiens qui viennent me voir et qui courent les conventions, les réunions les unes après les autres, s'imaginant que Dieu sera plus présent dans cet endroit-là, que Dieu va se manifester davantage au travers de ce serviteur, que l'Esprit de Dieu va accomplir davantage de miracles dans cet endroit-là et que l'Esprit de Dieu sera beaucoup plus présent parce qu'il y a ses serviteurs qui sont présents, comme si la présence de l'Esprit Saint était dépendait d'un lieu bien particulier. Moi, je crois effectivement que Dieu se manifeste à travers certains ministères, parfois de manière plus forte qu'au travers d'autres. Je pense aussi que Dieu est parfois plus présent dans certains endroits. Quand il y a la louange, quand il y a une attente, quand il y a une certaine effervescence, que ce soit de la part de ceux qui vont parler, aussi bien de ceux qui sont présents. Mais je crois que si on mise tout là-dessus, on passe à côté de l'essentiel. Parce que la Bible nous montre de manière très claire que la présence de l'Esprit de Dieu ne dépend pas d'un lieu. La présence de l'Esprit de Dieu se trouve en chaque enfant de Dieu. Ça veut dire, comme nous le verrons tout à l'heure, que peu importe l'endroit où nous sommes, Dieu est présent. Et quand je parle de Dieu, je parle de l'Esprit de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mes amis, je crois qu'il y a là certainement une des plus belles et une des plus grandes affirmations de tout le Nouveau Testament. Et il y a là aussi, je crois, un des plus grands mystères. Parce que la Bible nous parle de mystères. Et le fait que Dieu vienne habiter en nous est un mystère. Nous pouvons le comprendre avec notre intelligence, nous pouvons le vivre aussi, mais ça reste mystérieux. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. J'aimerais, avant d'aller plus loin, lire quelques paroles pour asseoir d'un point de vue biblique ce qui va être dit dans ces rencontres. Et le premier texte que je vous propose se trouve dans 1 Corinthiens 3, les versets 16 et 17, où l'apôtre Paul nous rappelle justement que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Écoutez ce qu'il nous est dit. Et il dit cela aux Corinthiens, donc à des chrétiens très particuliers. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. Plus loin, au chapitre 6, les versets 19 et 20, chapitre 6 de 1 Corinthiens, versets 19 et 20, il dit ceci. Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Éphésiens. Éphésiens au chapitre 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Et ensuite, un dernier passage, 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Les versets 19 à 22, 1 Thessaloniciens au chapitre 5, versets 19 à 22, n'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer, ne méprisez pas les prophéties, au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. D'autres versets seront cités, donc, au cours de mon intervention, que ce soit maintenant ou ce soir. Donc, vous avez de quoi noter tous? C'est bon? Sinon, vous gravez dans votre esprit. Quelques mots pour introduire ce sujet par rapport à cette personne du Saint-Esprit. Quelques mots sur ce que certains ont appelé, avec raison, le plus proche de nos visiteurs. Qui est l'Esprit-Saint? Je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que pour certains chrétiens, l'Esprit est simplement une influence, une puissance, un être impersonnel, un être supérieur. Mais lorsqu'il vous parle de l'Esprit-Saint, on a parfois l'impression qu'on assiste à un séminaire sur le Nouvel Âge. Il est question d'influence, il est question de puissance, il est question uniquement de manifestation. Alors tout cela fait partie, comme nous le verrons, de la vie de l'Esprit, mais l'Esprit est beaucoup plus que cela. Certes, lorsque l'Esprit Saint se manifeste à nous, nous allons ressentir quelque chose. Si par exemple il met le point sur un domaine de notre vie qui n'est pas bien aux yeux de Dieu, sur une direction que nous avons prise, il peut nous interpeller et il peut nous dire « écoute, là tu fais fausse route ». Il peut nous montrer un péché, il peut nous remplir de sa joie aussi. Mais l'Esprit est beaucoup plus que cela, ce ne sont que des conséquences de sa présence. L'Esprit est avant tout une personne, un être personnel, notez-le, au même titre que les deux autres personnes de la Trinité, ou comme le disent si bien certains, de la Triunité, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous éprouvons souvent, nous autres, des difficultés à considérer l'Esprit comme une personne. Et c'est vrai que c'est difficile. Et cela vient du fait que, justement, eh bien, il s'agit de l'Esprit. L'Esprit qui est invisible, qui n'a pas de corps, cependant, il n'en demeure pas moins une personne, nous dit l'Écriture. Et d'ailleurs, si vous lisez attentivement la Bible, aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament, vous découvrirez que l'Écriture lui attribue toutes les caractéristiques qu'on attribue à une personne. L'Esprit, par exemple, a une volonté qui est propre. Il pense. L'Esprit de Dieu est capable de parler. Acte 13, vous connaissez ce passage. L'apôtre Paul est là avec d'autres missionnaires, des prophètes, des apôtres. Ils sont en train de prier, ils sont en train de jeûner, ils recherchent la pensée du Seigneur et tout d'un coup l'Esprit de Dieu va parler. Comment ? Eh bien à travers la bouche des prophètes qui étaient présents. Il va parler et il va dire la chose suivante, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre que j'ai prévue d'eux. » Donc l'Esprit de Dieu est capable de parler. On sait qu'il envoie, il dirige, il instruit, il convainc. Le plus grand miracle, c'est le miracle de l'Esprit Saint. C'est la nouvelle naissance. Comment une personne est capable de changer de vie ? Vous avez déjà réfléchi à cela ? Moi qui suis évangéliste et qui voyage en France et à l'étranger depuis maintenant plus de 10 ans et qui ai l'occasion d'aider des dizaines, voire parfois même par la grâce de Dieu, des centaines de personnes à venir à Christ, chaque fois que je vois quelqu'un qui vient à Christ, qui est sauvé, je suis émerveillé parce que je me dis « mais c'est un miracle ». C'est un grand miracle. Une personne qui va dans une direction et qui, sans que personne ne fasse pression, va changer de direction et va réaliser son péché et va confier sa vie à Jésus-Christ, ça c'est le travail du Saint-Esprit. Regardez comme il est fort, regardez comme il est puissant. L'Esprit-Saint aussi exhorte, il distribue des dons, c'est lui aussi qui appelle au ministère. La Bible nous dit aussi, et nous le verrons tout à l'heure, qu'il peut être attristé et étouffé. Donc, tout ça pour souligner, mes amis, que nous avons là autant de caractéristiques qui mettent en évidence que l'Esprit de Dieu est bel et bien une personne. C'est un enseignant de la Bible qui s'appelle Thoré et qui a vécu il y a un siècle de cela, dans un de ses ouvrages de doctrine, qui dit ceci, et j'apprécie cela, il dit ceci, « Il est de la plus haute importance expérimentale que nous connaissions le Saint-Esprit comme une personne. » Et la question que nous pouvons et nous devons nous poser, connaissons-nous le Saint-Esprit comme une personne, et pas simplement comme une doctrine, pas simplement comme un ensemble de vérités auxquelles nous allons adhérer simplement d'un point de vue intellectuel, mais connaître la personne du Saint-Esprit comme étant réellement une personne. Et voyez-vous, je me dis la chose suivante, puisque l'Esprit de Dieu est une personne, et puisque cet Esprit est Dieu lui-même aussi, par conséquent, il mérite toute notre attention, toute notre amour, toute notre affection, toute notre considération. C'est le symbole de Nicée-Constantinople, qui est une des grandes confessions de foi chrétienne, à laquelle tout le monde adhère, aussi bien les catholiques que les protestants, les évangéliques, quelle que soit la sphère à laquelle ils appartiennent, qui dit ceci, « Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Lorsque nous adorons Dieu, que faisons-nous ? Nous adorons Dieu le Père, mais nous adorons aussi Dieu le Fils, et nous adorons aussi Dieu le Saint-Esprit. Et de la même manière que nous donnons à Dieu la gloire, que ce soit au Père ou au Fils, nous pouvons aussi adorer la personne du Saint-Esprit, parce que l'Esprit Saint n'est en rien inférieur au Père ou au Fils. Certes, au niveau de la Trinité, il y a des fonctions qui sont différentes, mais les trois fonctionnent ensemble, et les trois méritent notre adoration. Et souvent, nous dirigeons notre adoration vers le Père, ce qui est normal, puisque c'est lui qui a envoyé le Fils, vers le Fils, puisque c'est lui qui a donné sa vie, et nous zappons et nous oublions que l'Esprit Saint, lui aussi, mérite toute notre adoration, puisqu'il est plus qu'une influence, puisqu'il est plus qu'une force, puisque l'Écriture lui attribue toutes les caractéristiques qu'on attribue à une personne. Il est doué de pensée, de volonté. Certes, il n'agira jamais de manière différente de ce que le Père, de ce que le Fils veulent. Il y a une cohésion entre les trois, mais les trois agissent ensemble et les trois sont dignes. Et l'Esprit est digne aussi de recevoir notre adoration et d'être considéré, non pas comme quelque chose, mais comme quelqu'un qui a le même pouvoir, qui a la même autorité, qui a la même gloire, qui a la même puissance, et qui est Dieu au même titre que le Père et que le Fils. Nous l'adorons parce qu'il est Dieu, et surtout parce qu'il fait de nous, de notre corps, sa demeure. Réfléchissons un petit peu là-dessus. En tout cas, c'est ce que l'apôtre Paul affirme à deux fois. 1 Corinthiens 3 et 6, il nous est dit ceci, « Vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Comme je disais tout à l'heure, est-ce que nous réalisons ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici? Nous avons certainement l'un des plus beaux messages et l'un des plus grands messages qui existent dans toute la Bible. Il fait de nous son temple. Et moi, ça m'interpelle toujours. Le fait que Dieu vienne s'installer, que Dieu vienne habiter dans le cœur d'un être humain. L'être humain, nous savons ce qu'il est. Pas besoin de vous faire un dessin. Vous connaissez votre propre cœur. Je connais mon cœur. Et même si nous sommes sauvés, même si l'Esprit de Dieu habite au fond de nous, nous savons parfois que nous avons des pensées qui sont loin de plaire au Seigneur. Et parfois nous avons des comportements, des attitudes qui sont loin de glorifier Dieu. Et dans ces moments-là, on se dit, mais est-ce que moi aussi je suis temple du Saint-Esprit? Est-ce que l'Esprit de Dieu quand même habite en moi? Qui aurait choisi un être humain pour accueillir la présence de Dieu? Ça, c'est un truc de ouf. Eh oui, c'est un truc de fou. Regardez, les êtres humains préfèrent quoi pour accueillir Dieu? De tout temps, les êtres humains ont préféré des édifices religieux. Regardez chez nos amis catholiques, ils ont construit une magnifique cathédrale. Et ces cathédrales étaient destinées à quoi? Ces cathédrales étaient destinées à montrer la grandeur, la majesté de Dieu, à accueillir la présence de Dieu. Regardez dans les autres religions, c'est la même chose. On va construire de beaux édifices pour la divinité ou pour les divinités. Pourquoi? Parce que la divinité est digne de recevoir quelque chose de beau, de grand, et parce que la divinité, dans la pensée des personnes, et c'est toujours le cas aujourd'hui, va se manifester dans cet endroit-là. Mais qui aurait choisi de dire non, Dieu, il ne veut pas habiter dans des édifices, mais Dieu, il veut habiter dans le cœur, dans la vie d'une personne, avec tous ses dysfonctionnements, avec tous ses problèmes, avec tous ses péchés, avec toute son humanité, c'est là que l'Esprit de Dieu veut faire sa présence. Nous le savons, mais nous avons vraiment du mal à le croire et à le vivre aussi. Et c'est pour ça que de tout temps, nous avons cherché à bâtir des édifices, tous plus beaux les uns que les autres, s'imaginant que par là, l'Esprit de Dieu ou la divinité serait davantage présente, et pour montrer aussi l'importance. La volonté de Dieu, notez-le, même dans l'Ancien Testament, a toujours été d'habiter au milieu de son peuple. Vous le saviez ça? Lévitique 26, verset 12. Lévitique 26, verset 12, Dieu dit ceci, « Je vivrai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Ézéchiel 37, 27, « Ma demeure sera près d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » La volonté de Dieu a été de tout temps d'habiter au milieu de son peuple. L'Esprit de Dieu est présent depuis la première page de la Bible, où le souffle de Dieu était là et qu'il planait au-dessus des eaux, jusqu'à la dernière page de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, où il est question de l'esprit de la prophétie, de l'esprit qui souffle dans ces derniers temps pour révéler ce qui doit se passer. Comment est-ce que ça se passait dans l'Ancien Testament? Eh bien, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu était pour qui? L'Esprit de Dieu était essentiellement, comme vous le savez, mais c'est là un bref rappel, il était présent auprès de certains personnages, comme par exemple les prophètes. Ils en avaient besoin pour accomplir leur ministère. Michée 3.8 « Moi, dit Michée, grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de force, d'équité, de courage, pour dénoncer à Israël son péché. » Vous imaginez un petit peu le courage, la force qu'il fallait avoir? Un être humain par lui-même n'aurait jamais pu faire cela. Dénoncer les péchés d'Israël, dénoncer les péchés de milliers de personnes, il fallait être animé d'une autre puissance. Soit il fallait être complètement fou, c'est ce que pensaient certains, ou alors il fallait être animé par l'Esprit de Dieu. Parce qu'un être humain n'aurait pas pu faire cela, à moins d'être complètement malade. Ensuite, nous savons aussi que l'Esprit de Dieu était présent sur des artistes. Exode 35, versets 30 et 31. Exode 35, versets 30 et 31, qui nous montre que Dieu a rempli de son esprit certains artistes en vue de quoi? De la construction de l'Arche de l'Alliance. Construire tout le tabernacle, c'était une œuvre pour Dieu, et pour cela, il ne fallait pas simplement avoir des compétences naturelles, il fallait que ces compétences naturelles soient transformées. Ou comme dirait quelqu'un, un prêtre catholique, qui a écrit un excellent ouvrage sur le Saint-Esprit, transdynamisé, j'aime bien cette expression, transdynamisé par le Saint-Esprit. Et c'est excellent ça. Ensuite, il était sur des guerriers, Juges 11, verset 29. À plusieurs reprises, l'Écriture nous montre que des guerriers sont saisis par l'Esprit de Dieu pour mener le combat contre les nations païennes. Aujourd'hui, ce sont des textes qui nous dérangent profondément, puisque en plus qui dérangent qu'on a un esprit mennonite ou autre, on est plus dans l'évangile de paix et autres, mais rappelons-nous aussi que ces combats avaient un enjeu spirituel important, puisqu'il était question de la sainteté de Dieu, de la pureté du peuple de Dieu qui devait être préservé aussi. Et puis nous voyons aussi que l'Esprit de Dieu était présent sur des rois comme Saül, 1 Samuel 10, verset 6. Alors l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi, tu deviendras tout exalté, comme eux, c'est-à-dire les prophètes qui l'avaient rencontré, et tu seras changé en un autre homme. Et bien entendu, l'Esprit de Dieu était également présent sur le grand prêtre, c'est-à-dire celui qui officiait dans la partie la plus sainte et qui avait le droit de venir uniquement, c'était uniquement lui qui avait le droit d'aller là où il y avait l'Arche de l'Alliance. C'était le seul qui pouvait venir là. Ok ? Ça, c'est pour l'Ancien Testament. Et puis, ce que j'aimerais rajouter ici, par rapport à cet Esprit de Dieu, qui de tout temps a voulu habiter auprès des êtres humains et dans l'être humain, c'est que nous voyons que l'Esprit, en plus, dans l'Ancien Testament, ne résidait pas en permanence sur ces personnes-là. Sur certains, il était plus présent, comme par exemple David, Saül, le roi, mais nous voyons aussi qu'il y a souvent des prophètes qui ont été saisis par l'Esprit Saint. Et par conséquent, l'Esprit était plus présent à une certaine période de leur ministère, lorsqu'ils devaient accomplir une tâche bien spécifique. Ça va, vous me suivez toujours? C'est bon? On ne fait pas de pause? Ok, on continue. Dans le Nouveau Testament, eh bien dans le Nouveau Testament, tout change. Grand chamboulement. Ah, différent. Pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui apparaît. Jésus vient et il change la donne. Pendant son ministère, Jésus avait l'esprit sans mesure. Et ça, nous devons nous le rappeler, pour ne pas vouloir forcément appliquer tout ce que nous voyons Jésus, lorsque Jésus faisait quelque chose, et nous dire que nous aussi, nous devons être comme lui à 100%. Jésus avait l'esprit sans mesure, c'est-à-dire qu'il avait l'esprit dans toute sa plénitude, comme nous l'aurons lorsque nous serons au ciel, et certainement même bien plus. Donc ça veut dire que, puisqu'il avait l'Esprit de Dieu dans toute sa plénitude, il avait la pensée de Dieu tout le temps. À tout moment, il avait la pensée de Dieu avec lui. Il savait exactement les œuvres qu'il devait accomplir. Et c'est pour ça qu'il a porté tant de fruits et aussi qu'il a eu tant de succès. parce qu'il avait cet esprit sans mesure et par conséquent, il avait cette relation permanente, cette communion avec Dieu qui était, c'était du très très haut débit, hein, comme en Corée du Sud, du 100 mégas, 200 mégas, c'était du très haut débit et c'était constant. Et en plus, c'était free, gratuit, par le fournisseur d'accès free. Et puis nous voyons que tout de suite, Jésus, au début de son ministère, va donner cette promesse de l'Esprit-Saint. Il va annoncer qu'après sa mort et sa résurrection, l'Esprit, il dira à ses disciples, « L'Esprit demeure auprès de vous », en Jean 14, 7, « mais bientôt il sera en vous ». Et il dira que cette promesse de l'Esprit est valable non seulement pour ses disciples, mais qu'elle est aussi valable pour tous ceux qui viendront après. Puisque dans Acte 2, 39, il est dit ceci, la promesse, c'est-à-dire du pardon et du don de l'Esprit, est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui vivent dans les pays lointains. C'est pour ça qu'on doit aller annoncer l'Évangile partout. Tous ceux que le Seigneur, votre Dieu ou notre Dieu, fera venir à lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que lui, il est venu, il a inauguré ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est le temps de l'Esprit-Saint. C'est le temps où l'Esprit de Dieu, désormais, n'est plus simplement pour une catégorie de personnes. Il n'est plus simplement pour les Juifs. Il n'est plus simplement pour les prêtres, pour les prophètes, pour les rois, ou pour un ministère particulier. Mais que désormais, puisque Jésus est venu, puisqu'il est mort, puisqu'il est ressuscité, l'Esprit de Dieu va recouvrir, comme l'avait dit le prophète, toute la surface de la terre habitée, et que désormais, il est disponible pour toutes celles et ceux qui se repentent de leurs péchés, bien sûr, et qui croient dans le Christ. Autrement dit, ce que nous avons dit dans notre terminologie, nous autres évangéliques, qui l'avons accepté, qui sommes nés de nouveau, qui avons demandé à Jésus de venir dans notre cœur, enfin bref, vous connaissez toutes les terminologies que nous avons mises en avant, mais tout ça pour dire que désormais nous sommes maintenant dans le temps du royaume de Dieu. Et le temps du royaume de Dieu, c'est un temps tout nouveau. C'est un temps qui est très très particulier, puisque c'est le temps où l'Esprit Saint est à l'œuvre et que désormais il est accessible à chacun. Et que les œuvres du royaume de Dieu peuvent aussi désormais se manifester et avoir lieu, puisque c'est Jésus lui-même qui a introduit ce temps du royaume de Dieu. Et par conséquent, nous sommes, si nous-mêmes nous sommes repentis de nos péchés, et si nous vivons dans cette dynamique avec le Christ, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors concrètement, ça veut dire quoi être temple du Saint-Esprit? Notez-le. Tout d'abord, ça veut dire que nous pouvons nous approcher sans gêne, sans honte, sans culpabilité aussi de Dieu. Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous du Dieu de grâce avec une pleine assurance, là Dieu nous accordera sa bonté. » Ça veut dire que maintenant, l'Esprit de Dieu, comme je le disais tout à l'heure et je le souligne à nouveau, n'est plus lié à un endroit. Que nous n'avons plus besoin d'intermédiaire pour le recevoir. Nous n'avons pas besoin d'un grand prêtre, nous n'avons pas besoin d'un prophète, nous n'avons pas besoin de quelqu'un, que l'Esprit de Dieu est partout. Par conséquent, puisque l'Esprit de Dieu est présent partout, et puisque nous-mêmes, nous sommes en même temps temple du Saint-Esprit, et bien sûr, nous ne pouvons pas abriter toute la divinité en nous, c'est impossible, c'est inconcevable, puisque Dieu est bien plus grand que nous, Dieu est bien plus grand que l'univers lui-même, et qu'il dépasse de loin tout ce que nous pouvons comprendre et dire de lui, mais que désormais, l'Esprit de Dieu est accessible n'importe où. Quand je vais au supermarché avec mon caddie, que ce soit Cora, Lidl, Leader Price, Super U, c'est quoi que vous avez chez vous? Qu'est-ce que vous avez? Carrefour, on va pas oublier Carrefour. Et puis il y a quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a encore chez vous là? Migros, la Migros, ah ben oui, on n'est pas de la Suisse, la Migros, franchement, c'est bien. Et la Coop aussi. Eh bien, ça veut dire que même à la Migros, avec le gosse qui est en train de pleurer là-dessus, peut-être sur le chariot, ou qui veut, oh, je veux ça, que sais-je, partout où je suis, dans ma voiture, lorsque je suis sous la douche, lorsque je suis dans mon lit, lorsque je suis dans l'avion, dans le train, lorsque je suis au travail avec ces collègues qui me prennent la tête, avec cette collègue qui n'arrête pas de m'embêter, ou avec celui-ci avec qui, en ce moment, c'est un petit peu difficile, parce qu'il se moque de moi, ou simplement parce qu'on n'a pas les mêmes vues, eh bien, partout où je suis, je vais pouvoir faire l'expérience de l'Esprit Saint, de la présence de l'Esprit de Dieu. Et pourquoi c'est possible? C'est possible parce que je suis temple du Saint-Esprit. Et où, quel que soit l'endroit où que j'aille, l'Esprit de Dieu est en moi. Et en même temps, l'Esprit de Dieu est plus grand que moi. Donc, il est aussi hors de moi. Et ça veut dire que, peu importe l'endroit où je suis, si moi je suis dans de bonnes dispositions, je vais pouvoir expérimenter sa présence. Vous saisissez cela? Souvent, nous ne pensons pas à cette réalité. Combien de chrétiens pensent encore « je vais à l'église » et ils se disent qu'en venant à l'église, c'est là qu'ils vont recevoir quelque chose de particulier. Ils attendent avec impatience le temps du dimanche ou de semaine. Alors c'est bien d'attendre avec impatience et de s'attendre à recevoir quelque chose lorsqu'on se rencontre entre croyants, quel que soit l'endroit où on va, qu'on appelle ça église, chapelle ou alors qu'on appelle ça en plein air, peu importe. Et ce faisant, ils oublient que c'est tous les jours, là où ils sont, qu'ils peuvent vivre cette réalité de l'Esprit-Saint. Et le fait de nous dire cela, de le savoir, nous le savons, mais le fait d'arriver à le vivre, à l'intégrer dans notre vécu, ça change notre vie. Ça change totalement notre vie. Parce que je sois au travail, quelles que soient les activités que je suis en train de faire, l'Esprit Saint est là, il me voit. Et je peux vivre et je peux demander son conseil, je peux être renouvelé par sa présence, je peux recevoir sa pensée. Je peux vivre une relation de proximité, d'intimité avec lui qui n'est pas liée au fait ou à un endroit précis, mais qui est simplement liée, qui dépend essentiellement de moi, qui dépend avant toute chose, non pas d'une connaissance intellectuelle, parce que la connaissance intellectuelle est importante, mais il y a beaucoup plus que la connaissance intellectuelle. Il y a d'abord le vécu et l'écriture, comme nous le verrons, mais davantage l'emphase, non pas sur une doctrine froide et rigide, mais l'écriture met davantage l'accent sur la vie. À quoi sert-il de connaître si on ne vit pas? Vivre est tout aussi important, si ce n'est plus important. Et donc, on peut avoir cette relation, cette communion, cette dynamique qui se crée dans le quotidien. Ça, c'est la grande nouveauté du Nouveau Testament. C'est la grande nouveauté que Paul voulait que ses auditeurs comprennent, saisissent et vivent absolument. Ça, c'est impératif. Parce que ça change la vie. Ça veut dire que je peux être médecin, je peux être avocat, je peux être ouvrier, je peux être écolier, je peux être étudiant, je peux travailler à la caisse d'un supermarché et vivre, même sans avoir besoin de prier ou de parler, cette relation, cette intimité avec l'Esprit, puisqu'il est présent en moi, et que tout ce que j'ai à faire, c'est à être ouvert, et à savoir libérer sa présence, à savoir accueillir sa présence, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est la grande nouveauté du Nouveau Testament. Et voyez-vous, en nous donnant son Esprit, Dieu nous accorde un cadeau extraordinaire, un cadeau merveilleux. J'aimerais souligner ceci aussi, un fait important. L'Esprit que Dieu nous donne, c'est pas notre copain. Même si nous pouvons vivre et si nous vivons avec lui cette relation de proximité, mais l'Esprit que Dieu nous donne est appelé le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint. Et ça, c'est important. Et parfois, j'ai l'impression que certains chrétiens oublient cette réalité et parlent de l'Esprit Saint comme en oubliant le fait que, effectivement, l'Esprit est proche, mais en même temps, cet Esprit est un Esprit qui est saint. Romains 1, verset 4, l'Esprit est littéralement appelé l'Esprit de sainteté. Et dans Éphésiens 4, 30, l'Esprit est doublement déterminé. Il est appelé l'Esprit de Dieu, et en même temps, il est appelé l'Esprit saint. Et vous savez que la sainteté de Dieu est importante. Dans l'Ancien Testament, par exemple, dans l'Ancien Testament, vous savez que celui qui négligeait la sainteté de Dieu, qu'est-ce qui se passait? Là! Il passait de vie à trépas. Celui qui touchait l'arche de l'Alliance sans en avoir reçu l'autorisation ou qui n'avait pas reçu l'onction, et en plus qui ne suivait pas le protocole ou la procédure, immédiatement, il périssait. Une fois l'arche de l'Alliance se promenait, il y en a un qui a voulu la toucher, vous connaissez l'histoire. Il a été foudroyé. Tout ça pour dire, non pas pour donner un côté mystique, mais tout ça pour dire que l'Esprit de Dieu est très très saint. et qu'à partir du moment où on s'approche de lui n'importe comment et qu'on respecte pas le protocole, en tout cas dans l'Ancien Testament, on était foudroyé. C'est pour ça que le grand prêtre avait au bas de son habit des clochettes. C'était pas pour faire bien, c'était pas pour le folklore. C'était parce que lorsqu'il entrait dans le lieu très saint et qu'il faisait l'expiation pour le péché du peuple, etc., ça pouvait arriver, ou en tout cas, on avait pensé que ça peut arriver, qu'il s'y prenne mal et qu'il fasse une faute. Et à partir du moment où on n'entendait plus les clochettes, au bout d'un certain moment, c'est que le gars, il était mort. Parce qu'il n'avait pas respecté le protocole concernant la sainteté de Dieu. Vous allez me dire, c'est très dur. Effectivement, c'est très très dur. Mais c'est là pour nous rappeler que le Dieu qui est proche, qui vient en nous, est en même temps ce Dieu qui est saint. Et la sainteté de Dieu n'a pas changé avec la venue de Jésus. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Et parfois, il y en a qui ont du mal à faire le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui se disent, on a l'impression que dans le Nouveau Testament, Dieu est totalement différent. Ce qui a fait dire à certains théologiens, qu'on appelle des théologiens libéraux, qui n'ont pas compris l'essentiel, malheureusement, ce qui a fait dire à ces personnes-là qu'il y avait deux dieux. Le Dieu de l'Ancien Testament, qui était dur, rigide, coincé, très saint, et puis le Dieu du Nouveau Testament, qui était plus cool. Eh bien non, c'est les deux mêmes dieux que nous avons. Seulement, grâce à Jésus et grâce à l'œuvre de la croix, nous pouvons expérimenter cette proximité avec l'Esprit de Dieu. Mais Dieu reste toujours le Dieu trois fois saint. Ça reste toujours le Dieu d'Ésaïe 6, lorsque Ésaïe, ce prophète qui avait reçu l'onction de Dieu, a reçu cette vision de Dieu, lorsqu'il a vécu cette proximité avec lui, il s'est écrié « Malheur à moi, je suis perdu ». La sainteté de Dieu est exactement la même aujourd'hui qu'il y a 4000 ans. Et vous savez que tous les réveils qui ont eu lieu au cours de l'histoire de l'Église ont toujours remis en évidence la sainteté de Dieu. Et vous avez là certainement une des marques fondamentales qui vous permettra de discerner entre le vrai et le bling-bling, entre le vrai et le faux. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réveils qui ont eu lieu, comme vous savez, ou qui ont lieu. Certains réveils sont authentiques, viennent réellement de l'Esprit de Dieu, même si parfois certaines manifestations nous surprennent. Et puis d'autres réveils, c'est du bling-bling, c'est du toc. Ça a été créé par l'être humain, par une effervescence spirituelle qui est là. Peut-être que d'autres esprits s'en sont mêlés, j'en sais rien. Ou tout simplement c'est psychologique. Mais il n'y a pas les fruits. Le fruit principal d'un réveil, qu'on retrouve dans tous les réveils, quelle que soit la période de l'histoire de l'Église, qu'elle soit toute récente ou alors qu'elle soit plus ancienne, c'est toujours un esprit de repentance que Dieu donnera. Alors cet esprit de repentance ne sera pas forcément sur tout le monde, parce que chacun se trouve à des stades différents. Mais lorsque l'Esprit de Dieu tombe sur une personne ou vient sur une personne, cette personne va être saisie à un moment donné ou un autre dans cet esprit de repentance, parce qu'elle va réaliser que Dieu qui se révèle à elle, Dieu qui lui donne quelque chose de tout nouveau, Dieu qui lui permet de comprendre quelque chose de neuf, eh bien ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est saint. Ça veut dire qu'il est différent de nous. Et c'est justement parce que Dieu est différent de nous qu'il est en même temps le tout proche, mais en même temps le tout autre, et qu'il est tellement différent de nous que nous allons sentir cette différence. Nous sentons que Dieu est différent de nous, nous sentons qu'il n'est pas comme nous. Et c'est justement parce qu'il n'est pas comme nous qu'on prend conscience que lui, il est très très propre. Nous, on a l'impression d'être déjà bien propre, ok ? Mais là, finalement, on se rend compte qu'on est loin d'être aussi propre que ce qu'on pensait. Mais en même temps, lorsque Dieu montre cela, il montre aussi tout de suite sa grâce et son amour. Parce que les deux sont indissociables. Et c'est là qu'on voit la différence entre un véritable réveil qui est initié par l'Esprit de Dieu, où vous allez avoir cet esprit de repentance, mais en même temps cet esprit de grâce. Et quand c'est initié par les hommes, ça ne sera pas présent. Ou alors vous allez juste trouver un esprit de repentance, mais un esprit de repentance de style culpabilisation à outrance, où les gens vivent tout le temps dans la culpabilisation, dans la culpabilité, et ils n'arrivent jamais à se défaire de cet esprit de culpabilité. C'est ce que j'ai pu remarquer avec certains chrétiens qui sont venus en entretien, qui étaient tout le temps dans cet esprit de culpabilité, qui n'en sortaient pas, hein, qui pensaient que ça venait d'un mouvement de réveil. Eh bien ça vient d'un faux enseignement, d'une mauvaise compréhension des choses. Parce que si Dieu nous montre notre péché, il nous montre immédiatement la grâce. Et son amour est tellement plus grand que ça enlève tout le reste. Par conséquent, puisque l'Esprit de Dieu est saint et puisque nous sommes de manière personnelle sa demeure, nous devons être vigilants Et comme dit Éphésiens 4:30, reprenez-le, Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et je termine avec cette question. Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Je vois essentiellement deux facteurs. Le premier facteur, et c'est certainement le plus grave, disons-le, c'est le péché. Le péché ne peut être toléré dans la vie d'un enfant de Dieu, et c'est parfois parce que le péché est toléré dans nos propres vies que nous pouvons connaître, je dis bien nous pouvons connaître, tant de faiblesses, tant de misères. Disons-le que le péché de Dieu attriste aussi profondément l'Esprit Saint. Cette expression que nous avons, attrister le Saint-Esprit, qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 4 au verset 30, est une expression, c'est très intéressant, qui vient de l'Ancien Testament, d'Ésaïe 63.10. Regardez ce qui nous est dit en Ésaïe 63.10. Eux, c'est-à-dire le peuple d'Israël, ils se sont rebellés et ils ont attristé son Esprit Saint. Dès lors, il s'est changé pour eux en ennemi. Ouh, c'est fort. Et les a combattus. Donc cette parole, fait référence à quoi? Cette parole fait référence à cet épisode où le peuple est dans le désert, où le peuple murmure, où le peuple n'est pas content de son sort. Les vrais Français, toujours en train de râler, ils sont pas contents, ça va pas, hein? On oublie tout ce qui s'est passé. Et ils oublient tout ce que Dieu a fait. Psaume 78, que de fois ils l'ont bravé au désert, ils l'ont enfoncé dans les lieux arides. À nouveau, ils mettaient Dieu au défi et ils attristaient le Saint d'Israël. Et donc cette expression, notez-le, attrister le Saint-Esprit peut être rendue littéralement par le verbe grec qui est utilisé ici, par « ils ont rendu malade son Esprit Saint ». Pire que la grippe, hein. Malade de chez malade. Ils ont rendu malade son Esprit Saint. Tout ça pour dire que s'il y a quelque chose qui attriste et qui rend malade, il n'y a finalement qu'une seule chose qui rend malade le Saint-Esprit. C'est le péché. Et c'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul va rappeler aux Corinthiens lorsqu'il pose cette question. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce qu'il leur dit cela? Parce que une partie des Corinthiens vivait dans le péché. Et qu'est-ce qui se passait chez eux? Il y avait des divisions. La division est un péché. Les uns se disaient de Paul, les autres d'Apollos, les autres de ceci, les autres de ce prédicateur itinérant qui venait et qui savait enflammer les foules. Bref, chacun se disait de quelqu'un d'autre. Il dit, mais là, vous avez rien compris. D'autres vivaient dans les péchés d'immoralité. C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes au niveau sexuel. On couchait un peu avec n'importe qui. Ils n'avaient pas capté que lorsqu'on devient chrétien et qu'on est temple du Saint-Esprit, on ne peut plus faire n'importe quoi. Ils n'avaient pas saisi cela, pourtant ils avaient reçu l'enseignement. On imagine que Paul n'a pas zappé ce genre d'enseignement élémentaire, fondamental. D'autres allaient voir les prostituées au temple, parce qu'en allant voir les prostituées au temple, ils pensaient qu'en ayant des relations sexuelles avec elles, ils allaient être beaucoup plus proches de la divinité. C'est ainsi que les choses se concevaient en ce temps et se conservent encore aujourd'hui dans certaines religions. D'autres vivaient une hyper-spiritualité. Une hyper-spiritualité où ils étaient carrément déconnectés de la réalité. Ils voyaient même plus les autres qui avaient faim. Ils voyaient même plus les besoins humains des uns et des autres. Et ce faisant, ils manquaient d'égard et de charité chrétienne. Et par conséquent, ils péchaient. Et puis dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul met aussi en évidence d'autres péchés qui peuvent rendre malade le Saint-Esprit. C'est dans Éphésiens, au chapitre 4, les versets 26 et 29, par exemple, Éphésiens 4, chapitre 26 et 20, versets 26 et 29, à 29. Mettez-vous en colère, me dit la traduction du semeur, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil, ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains, pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin, ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Je crois que ça va un peu dans le même sens que ce verset qui est derrière moi. Et puis un autre texte encore, toujours dans Éphésiens 4, le verset 31. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Et Éphésiens 5, verset 1, ou verset 3 plutôt, quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes et à la soif de posséder, qu'il n'en soit même pas question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu, pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Examinez, exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. C'est fort ce qui est dit là, hein, parce que moi, plusieurs fois, je me retrouve dans certains des trucs qui sont mis là, dedans. Donc ce sont là des choses qui peuvent rendre malade le Saint-Esprit, des péchés qui peuvent déranger profondément et avoir des conséquences. Les conséquences sont nombreuses. Tout d'abord, nous perdons la joie du salut. Nous perdons l'onction de Dieu sur notre vie aussi. L'onction de Dieu, c'est la présence que Dieu nous donne. Cette présence qui fait la différence dans notre vie, cette présence qui fait la différence dans notre témoignage, cette différence qui fait la différence dans l'exercice des dons que Dieu nous a donnés, nous perdons cela. Regardez David au psaume 51. Lorsqu'il aura péché, et une fois qu'il aura reconnu sa faute, il dira au psaume 51, « Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Ça ne vous interpelle pas cette parole ? Moi, ça m'a toujours interpellé. Dieu ne me retire pas ton Saint-Esprit. Et pourquoi est-ce que David a dit cela ? David a dit cela parce qu'il a vu ce que ça fait quand Dieu retire son Esprit Saint. Il a vu ça chez qui ? Chez Saül. Vous savez que David et Saül étaient très proches l'un et l'autre. Que David était pendant longtemps à la cour du roi Saül. Il a vu que Saül avait reçu l'onction de Dieu. Que Dieu était présent avec lui d'une manière particulière lorsqu'il a remporté des batailles, lorsqu'il prenait des décisions, lorsqu'il voyait que son ministère, la souveraineté s'étendait. Et puis il a vu ce qui s'est passé lorsque Saül a commencé à désobéir à Dieu. Et un jour, Dieu dira, maintenant, il dira ça au prophète Samuel, maintenant je me retire de lui, je me barre, je me fais la malle, je pars, c'est terminé. Je me retire de lui. Et à partir du moment où il s'est retiré, ça a été catastrophe sur catastrophe. David a vu tout cela. Il a vu quand Saül a combattu contre lui. Et il savait très bien qu'à ce moment-là, même si c'était loin de l'Éternel, il savait très bien que l'Esprit était parti. Et c'est pour cela que lui-même, lorsqu'il a commis une faute, il a supplié Dieu, même en s'étant repenti, de ne pas retirer son Esprit Saint. Parce qu'il savait que sans la présence du Saint-Esprit, il ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, nous disons, nous autres évangéliques, c'est un des points de doctrine fondamentaux, oui, mais le Saint-Esprit ne peut pas partir. Écoutez, moi je suis désolé, si on vit n'importe comment, le Saint-Esprit à un moment donné, en tout cas il va être sous couvert, mais beaucoup sous couvert. Et je crois que ces exemples-là doivent aussi nous faire réfléchir. Et nous devrions être dans la dynamique, non pas de nous gargariser, non pas de nous dire « Oh, mais de toute façon, on a le Saint-Esprit ». Parce que si on est dans cette dynamique-là, on ressemble un petit peu aux pharisiens qui pensaient tout avoir et qui finalement avaient oublié l'essentiel, mais plutôt être dans la dynamique, oui, l'Esprit de Dieu est avec nous. Mais combien il est précieux de garder cette présence, de développer cette présence de l'Esprit de Dieu en nous, cette relation avec lui, et par conséquent de veiller et de faire attention à des choses qui pourraient lui déplaire. Et vous savez, nous autres, en tant que chrétiens, et moi je dis cela parce que j'ai pas mal de personnes qui viennent en entretien, alors je ne dis pas ce qui se passe dans les entretiens parce que ça fait partie, du secret, mais combien de fois j'ai rencontré des chrétiens qui sont venus et qui vraiment souffraient parce qu'ils avaient ouvert des portes dans leur vie, à toutes sortes de péchés. Et aujourd'hui, c'est facile. C'est très facile dans notre société parce que il y a une grande liberté, parce que nous avons accès à tout. Et mes amis africains, lorsqu'ils viennent en France, d'abord, tout le monde veut venir parce qu'ils se disent « Ah, mais c'est tellement merveilleux chez vous ». Et quand ils découvrent la liberté et l'accès à tout, à toutes sortes de choses, ils se disent « Mais c'est difficile. C'est difficile de vivre ici ». Et certains disent « Mais moi, je vais prier vraiment pour vous parce que avec toutes les tentations qu'il y a, avec toutes les portes qui peuvent s'ouvrir si facilement, comment est-ce qu'on va faire ?» Eh bien, des chrétiens s'imaginent parce que Dieu est bon, parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu pardonne, on se dit « Oh, on va commettre un petit péché. De toute façon, Dieu, il pardonne, c'est son métier, comme disait quelqu'un. » Alors effectivement, Dieu est bon, il pardonnera toujours. Mais il ne faut jamais oublier que le péché laisse des traces. Et le péché, il nous marque. C'est comme un tatouage. Moi, j'ai 2-3 tatouages sur moi, ils ne sont pas très jolis, mais voilà, ils sont là, et ils sont là pour toute la vie. Alors bien sûr, on peut les faire enlever au laser, mais les marques seront quand même toujours là. Et le péché, c'est comme ça. Ça laisse des marques sur notre vie. Ça laisse des marques qui sont là, qui sont indélébiles, qui peuvent rester, traîner pendant des années aussi. Et puis quand on est dans cette dynamique-là, eh bien, l'Esprit de Dieu est rendu malade aussi. Bien sûr, il y a toujours la possibilité de raviver la flamme, de vivre quelque chose de nouveau. Mais n'oublions pas que les portes doivent être fermées. Et en tout cas, dès que l'Esprit de Dieu nous montre quelque chose. Et puis la seconde chose qui déplaît au Saint-Esprit, notez-le, c'est la mise en veille des différents charismes. Nous en reparlerons des charismes demain matin. Remarquez que je n'ai pas dit qui attriste, mais qui déplaît au Saint-Esprit. Il y a une différence entre rendre malade le Saint-Esprit, ça c'est le péché qui le rend malade, et attrister le Saint-Esprit, c'est lorsque nous mettons en veille les différents charismes que Dieu nous donne. Prenez avec moi 1 Thessaloniciens 5, versets 19-22. 1 Thessaloniciens 5, verset chapitre 5, verset 19-22. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Ou plutôt, littéralement, n'éteignez pas l'Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. J'aime bien la traduction de M. Kuhn, qui est celle-ci. N'entravez pas l'action de l'Esprit, ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. Ne dépréciez jamais les instructions ou les exhortations que les croyants animés par l'Esprit vous adressent. Ne sous-estimez pas les révélations prophétiques. Ne méprisez pas votre conduite ou par votre conduite la parole que le Saint-Esprit vous adresse. Et j'aime bien cette transcription. Ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. Qui rend bien compte du verbe qui est utilisé ici, qui littéralement est n'étouffez pas. Alors, la question qu'on va se poser, qu'on doit se poser, mais qu'est-ce qui peut étouffer, non pas rendre malade, mais étouffer le Saint-Esprit? Étouffer, ça veut dire, il veut dire quelque chose, il aimerait bien parler, comme Bartimée. Vous connaissez l'histoire de Bartimée. Bartimée qui était là, sur la route de Jéricho, qui était dans cette foule, Jésus qui passe, une foule nombreuse qui le suit, parce que tout le monde voulait bénéficier, recevoir quelque chose de sa part et l'accompagner, et puis Bartimée qui est là, qui aimerait bien parler, et la foule qui essaye de l'étouffer. On veut pas qu'il ait accès à Jésus, il est pas important lui. Et c'est ça, étouffer l'Esprit, qu'est-ce qui peut étouffer l'Esprit Saint? Les versets 20 et suivants nous donnent la réponse, en méprisant les prophéties. Et la Tobe parle littéralement des paroles des prophètes. Se pose la question ici de savoir, mais qu'est-ce qu'un prophète? Et qu'est-ce que la prophétie dont il est question ici? Notez ceci, pour faire court, la prophétie, c'est pas simplement comme nous le voyons dans certains milieux qui mettent uniquement l'emphase sur ce qui doit venir, c'est-à-dire l'avenir. Pour beaucoup, la prophétie, c'est presque le voyant. C'est Elisabeth Tessier ou Maud Christen, une célèbre voyante sur Paris, ou bien des chefs politiques, des responsables politiques et autres vont. C'est pas ça la prophétie. La prophétie, il y a un aspect divinatoire, je dirais, qui concerne l'avenir, pas divinatoire, excusez-moi, un aspect qui concerne l'avenir, mais ça c'est une toute petite partie de la prophétie. 1 Corinthiens 12 et 14 nous montrent que la prophétie est quelque chose de beaucoup plus vaste. Le prophète, c'est celui qui parle pour Dieu. C'est le porte-parole de Dieu, qui va parler sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Et selon 1 Corinthiens 12 et 14, il est celui qui révèle la volonté de Dieu pour, notez-le, ça c'est important, pour les circonstances présentes. Et pour moi c'est ça, celui qui a le ministère de prophète ou celui qui a un don de prophétie qui est différent du ministère de prophète est celui qui révèle avant tout la volonté de Dieu pour les circonstances présentes. Puisque 1 Corinthiens 14 verset 3 nous dit, il édifie, il exhorte, il encourage, et il y a un aspect révélatoire et dévoile les secrets des cœurs. Comment ? Nous autres chrétiens évangéliques, nous concevons cela trop souvent uniquement sous l'angle de la prédication. Et on a presque assimilé dans certains milieux prédication à prophétie. On dit, eh bien c'est ça la prophétie. Quand tu prêches, tu encourages, tu exhortes, tu consoles. Et parfois tu dévoiles les secrets des cœurs aussi. Mais ça se manifeste pas simplement par ce moyen-là. C'est un moyen par lequel ou que Dieu va utiliser. Mais la prophétie se manifeste, ou l'esprit prophétique se manifeste de manière très différente, à travers des hommes, à travers des femmes à qui l'esprit va parler et qu'ils vont communiquer ensuite ce qu'ils ont reçu. Après, bien sûr, il va falloir veiller, et c'est ça, c'est très important, de veiller à savoir comment la personne va donner les choses. Si elle vient et dit « Oh, l'Esprit ainsi parle, l'Esprit de l'Éternel, l'onction de Dieu est sur moi, mon cher, descends de tes grands chevaux, dis-nous ce que tu as à dire en français courant, tout simplement. » Voilà, ça marchera tout aussi bien. Souvent, les personnes peuvent recevoir quelque chose de la part de Dieu, mais parfois la difficulté, c'est comment est-ce qu'elles vont transmettre les choses. La Bible nous dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ça veut dire qu'à partir du moment où il reçoit quelque chose, la personne est pleinement responsable de ce qu'elle va dire. Elle pourra pas dire « c'est Dieu qui me l'a dit et c'est parce que ça s'est passé comme ça ». Non, non seulement la personne est responsable de ce qu'elle dit, mais elle est responsable aussi de la manière dont elle dit les choses. Vous saisissez ce que je veux dire ? Je suis responsable de ce que je reçois, mais je suis responsable aussi de la manière dont je vais donner les choses. Donc, j'ai pas besoin de prendre des grands mots, je peux simplement dire « voilà une pensée, je pense que c'est quelque chose que le Seigneur m'a donné ». Et combien de fois, ça vous est certainement déjà arrivé, de recevoir des pensées, et par la suite, vous vous êtes rendu compte que ces pensées étaient vraiment des pensées prophétiques, dans le sens que c'est une pensée qui venait de Dieu. Et nous avons besoin de cela pour la bonne marche de l'Église, parce que comment discerner la pensée de Dieu ? À travers les Écritures, mais à travers le souffle prophétique aussi que Dieu nous donne. Et l'apôtre Paul insiste vraiment sur l'importance de ne pas mépriser non seulement les prophètes, non seulement ceux qui peuvent avoir ce don de prophétie, mais les personnes tout simplement qui vont délivrer cela. Parce qu'en méprisant les prophéties, on étouffe l'Esprit de Dieu. Bien sûr, la prophétie, il nous est dit, examinez toutes choses. La prophétie, c'est pas la parole de Dieu qui est donnée dans le sens, tout est à prendre du début jusqu'à la fin. La prophétie doit être examinée, c'est-à-dire qu'ensemble, on réfléchit. Est-ce que ce que tu as reçu vient vraiment de Dieu ? On prend le temps de prier et de discerner. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas simplement donné à une personne, mais parce que l'Esprit de Dieu est donné à la communauté. Et c'est pour ça que dans certains endroits, lorsqu'on reçoit, quelqu'un reçoit une parole prophétique ou autre, avant de la donner, cette parole va être filtrée par un groupe qui va discerner, qui va examiner. Et une parole prophétique n'ira bien sûr jamais à l'encontre de ce que Dieu nous dit dans sa parole. C'est une évidence. C'est une évidence. Par contre, je le souligne, une parole, une prophétie ou des prophéties peuvent nous déstabiliser. Ah ! Elles peuvent nous déstabiliser, nous déranger. Pourquoi ? Parce que Dieu peut nous emmener dans une autre direction que celle que nous avions prévue. Dieu peut nous emmener dans une autre direction qui semble pas logique pour nous. J'aimerais simplement rappeler ceci, la logique de Dieu n'est pas notre logique. Je ne dis pas que Dieu est illogique, Dieu est logique. Si vous regardez comme la nature est faite, tout est très bien conçu, de manière parfaite. Mais la logique de Dieu n'est pas notre logique à nous. Et parfois nous autres, nous pouvons aller dans une direction, et moi je l'ai vu à maintes reprises dans mon ministère, et prendre conscience que cette direction n'est pas la direction du Saint-Esprit. Même l'apôtre Paul, qui partait dans une direction pour évangéliser, une nuit, le Saint-Esprit lui dit « Non, maintenant tu vas passer par la Macédonie, tu vas aller ailleurs pour annoncer ma parole. » Ça ne faisait pas partie des plans de Paul, mais il s'est laissé interpeller par cette vision, par cette prophétie que Dieu lui a donnée. Je me pose la question, qu'en est-il aujourd'hui ? Laissons-nous de la place dans nos communautés pour les manifestations prophétiques et d'une manière plus large pour l'ensemble des charismes, parce que je crois qu'à travers ce texte de 1 Thessaloniciens 5, eh bien Paul ne vise pas simplement la prophétie, mais il vise ici l'ensemble des charismes qui ont été donnés à l'Église. Moi je me rappelle de cet ami qui avait fait une école biblique, et lorsqu'il vient à l'école biblique, on lui a dit la première chose qu'on lui a dit, « Écoute mon cher, les charismes du Saint-Esprit, tout ça tu le laisses à la porte de l'école biblique. » Tu rentres, tu les laisses là, et quand tu ressors, tu les reprendras. Mais tout ça, tu le laisses, parce que nous, on n'y croit pas, on en parlera demain matin, pour nous, ce n'est pas important. Eh bien, ce faisant, on passe à côté quelque chose d'important. Dans certaines communautés, c'est ce qui se passe, on laisse les charismes à la porte, même parfois chez ceux qui mettent l'accent sur ces dons, et qui sont les plus virulents dessus. C'est eux, parfois, qui sont le moins à même d'écouter, d'entendre le souffle prophétique. On a peur de cela. Pourquoi a-t-on peur? Parce qu'on a peur que ça parte dans tous les sens. On a peur aussi d'une trop grande exaltation. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je préfère parfois une trop grande exaltation. Je n'ai pas dit un débordement spirituel, mystique, ok? Mais je préfère parfois une trop grande exaltation plutôt qu'une église frigidaire, voire congélateur. Vous voyez ce que je veux dire? Après, l'exaltation n'est pas non plus synonyme de spiritualité, nous le savons, puisque ça se manifeste différemment pour chacun. Mais ce qui est important ici, c'est de ne pas mépriser la prophétie, parce que nous risquons de passer à côté de certaines bénédictions, et surtout, nous étouffons, selon le texte biblique lui-même, l'Esprit Saint. Et la prophétie, c'est très simple. Ce n'est pas qu'à travers la prédication. Ça peut être à travers une parole inspirée d'un frère ou d'une sœur. Moi, je prends l'exemple de mon mentor, qui est aussi président de notre association. Régulièrement, on se voit pour avoir des journées de travail ensemble. Combien de fois je suis allé le rencontrer? Lui avait prié pour cette rencontre, moi j'ai prié pour cette rencontre. Et au cours de la journée, des sujets qui ont été abordés, il abordait des choses extrêmement pointues, qui me concernaient, qui me touchaient personnellement, et qui correspondaient à 100% à ce que je vivais. Et dans mon esprit, j'ai dit, Seigneur, mais tu lui as passé un coup de fil avant là ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était exactement ça. Et pourtant, ça s'est passé de manière naturelle. Après, il faut savoir faire la différence entre le fond et la forme. Et parfois, on va se bloquer parce que la forme ne nous plaît pas. Mais ce n'est pas parce que la forme ne nous plaît pas que le fond n'est pas bon. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut mal s'y prendre pour le fond. Et on est responsable si on s'y prend mal. Mais le fond, il peut y avoir quelque chose de bon. Et par contre, c'est mal amené par la forme et c'est pour ça que ça risque de déstabiliser certaines personnes. Mais l'exercice des charismes est important dans l'Église, non pas comme étant la panacée, non pas comme étant quelque chose d'extraordinaire, mais la prophétie est importante dans le sens qu'elle nous permet de comprendre la pensée de Dieu pour ici et pour maintenant. Et je me dis, s'il y en a qui ont besoin de comprendre la pensée de Dieu pour ici et maintenant, ce sont bien nous autres chrétiens. D'accord ? Mais en même temps, parfois, elle nous fait peur. Elle nous fait peur parce qu'on risque d'être déstabilisé, parce que ça risque de contrecarrer nos plans. Mais si ce sont les plans du Seigneur, et si ceux-ci sont bons, et si cela ne pousse pas à prendre des décisions qui sont contraires à celles de l'Écriture, dans ce cas-là, si ça vient de Dieu, ça ne peut être que bon. Et ça ne peut porter, normalement, que de bons fruits. Le seul moyen, et je conclue avec ça, pour raviver la flamme de l'esprit et faire repartir l'esprit, dans un cas comme dans l'autre, que ce soit parce que nous avons péché, ou pas péché, mais parce que nous avons commis un péché, oui, ou parce que nous avons négligé les charismes de Dieu, dans un cas comme dans l'autre, ce sera toujours la même démarche, c'est-à-dire la repentance. Et c'est encore plus vrai si nous avons attristé le Saint-Esprit. Regardez un peu le livre des Actes, et nous en parlerons ce soir, vous allez voir que ce qui a permis à l'Église primitive de conserver, de garder la flamme, c'était une forte conscience de la sainteté de Dieu, de son esprit. Dès qu'un péché était commis, que ce soit par une attitude, une pensée, tout de suite la chose était amenée à la lumière. Et puis d'autre part aussi, la prise de conscience, la réalité, comme le dit Paul aux Thessaloniciens, de ne pas non plus mépriser les charismes spirituels, et particulièrement la prophétie, qui est importante, puisqu'elle concerne le fait de consoler, d'encourager, d'exhorter, de révéler les choses cachées qui ont besoin d'être mises à la lumière. Je termine en disant ceci, nous sommes le temple du Saint-Esprit, Dieu nous a donné ce qu'il y a de plus précieux pour nous, et de plus précieux pour lui, pardon. Par conséquent, il est important de veiller. De veiller, non pas à être des bons petits religieux, ça n'intéresse personne, ok? Surtout ceux que nous cherchons à atteindre avec l'Évangile aujourd'hui, mais de veiller à ne pas attrister le Saint-Esprit, et d'autre part, à ne pas étouffer cette flamme du Saint-Esprit. Et de veiller aussi à ne pas vivre, comme nous le verrons ce soir, et je développerai ça plus tard, sur des expériences passées. Et sur la manière dont l'Esprit a pu agir au cours de l'histoire de l'Église. Parce que l'Esprit a agi au cours de l'histoire de l'Église, il a agi ces dernières années, mais chaque fois que l'Esprit de Dieu agit ou se manifeste, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de neuf. Pourquoi ? Parce que les êtres humains sont différents. Ils sont neufs. Le fond est toujours le même, le cœur de l'homme est toujours le même, ses aspirations sont toujours les mêmes, mais il y a toujours quelque chose de neuf parce que les circonstances sont autres. On veut prier. Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance et te dire merci parce que tu nous as donné ce qu'il y avait de plus précieux pour toi. Tu nous as donné ton Fils d'abord, et ensuite, Seigneur, tu as envoyé ton Esprit de vie. Nous voulons te demander pardon parce que si souvent nous laissons des portes ouvertes dans nos vies et nous donnons ainsi accès au diable, nous donnons ainsi accès à des démons, nous donnons ainsi accès, Seigneur, à des choses qui ne sont pas bonnes pour nous et nous rendons malade ton Esprit Saint parce qu'il ne supporte pas cela, parce que c'est contraire à sa nature. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous éclaires sur les choses pour lesquelles nous devrions peut-être nous repentir, sur les portes qui devraient être fermées. Seigneur, merci parce que tu dis dans ta parole que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors si tu sondes les profondeurs de Dieu, à plus forte raison, combien est-ce que tu peux sonder les profondeurs de notre cœur, de notre psychisme, de notre intelligence, de ce que nous sommes nous-mêmes. Et ma prière ce soir, c'est que tu puisses sonder le cœur des uns et des autres. Non pas pour faire un examen malsain, mais pour révéler ce qui a besoin d'être révélé, pour mettre à la lumière ce qui a besoin d'être mis à la lumière, pour donner quelque chose qui vienne de toi de neuf. Seigneur, pardonne-nous aussi parce que si souvent nous avons méprisé, nous avons négligé, Seigneur, le souffle prophétique, parce que nous voulons tout conduire nous-mêmes, parce que nous avons peur de quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Parce que nous voulons toujours tout bien maîtriser dans nos vies, tout bien maîtriser dans l'Église, par peur que ça prenne une mauvaise direction. Et ce faisant, Seigneur, nous étouffons la voix de l'Esprit. Et ce faisant, nous passons à côté peut-être d'un renouveau spirituel aussi que tu veux donner. Eh bien, je prie, Seigneur, que tu nous pardonnes et que tu nous donnes d'entendre, de recevoir ton souffle. Et surtout, Seigneur, de ne pas négliger la prophétie que tu donnes aujourd'hui à ton corps et à l'Église, afin que cet esprit prophétique souffle à nouveau et que nous recevions ta pensée, que nous vivions quelque chose de frais avec toi. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour cet esprit que tu nous donnes. Renouvelle aussi cet esprit de vie, car nous en avons besoin, Seigneur. Merci parce que tu peux nous remplir tout à nouveau, car tu es infini. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutez, mes chers, est-ce qu'on vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit ce soir ? Je crois que c'est plutôt cours biblique que vous faites, alors on va laisser l'occasion de poser des questions, si toutefois vous en avez, si vous n'en avez pas encore marre, ou assez. Est-ce qu'il y aurait des questions, des réflexions par rapport à ce que nous avons dit, ou peut-être une autre question qui vous vient à l'esprit, quelque chose avec quoi vous n'êtes pas d'accord, ou alors une précision que vous souhaiteriez avoir? Dans ce cas-là, allez-y, toutes les questions sont bonnes à prendre. Ah, d'accord. Alors, je disais cela dans le sens que les Ménonites, moi-même je fais partie d'une église Ménonite, insistent beaucoup sur l'évangile de paix. Donc dans le sens que on est pour la paix, non pas pour la guerre. Donc peut-être que certains, plus que d'autres encore, eux, peut-être certains pourraient peut-être être dérangés dans le sens que dans l'Ancien Testament il y a des guerres, des combats, et que ça cadre pas vraiment, en tout cas au premier abord, avec le fait que Jésus nous dit « aimez vos ennemis ». Priez pour ceux qui vous persécutent, faites du bien et non du mal. D'accord ? Donc, si on prend simplement les deux textes bibliques, d'un côté, on voit Jésus qui apporte un message de paix, qui encourage à ne pas prendre les armes, qui encourage à ne pas se soulever, mais à se soumettre à l'autorité. Et puis, d'autre part, dans l'Ancien Testament, on a Dieu qui parle et qui donne son esprit et qui arme des personnes pour partir au combat. On voit des morts par centaines, par milliers. On voit qu'il faut tuer les femmes, les enfants, qu'il faut tuer les animaux aussi, qu'il faut tout brûler. On se dit, ouh ! Que se passe-t-il ? Donc c'est pour ça que j'ai fait allusion. C'est bon ? Donc ce n'était pas une critique, c'était simplement une allusion qui avait besoin d'être explicitée. Autre point. D'accord. Alors quand je disais qu'il était digne de notre adoration, qu'on pouvait l'adorer, c'était dans le contexte de la Trinité. C'est-à-dire lorsque nous... C'était peut-être pas forcément pour le faire individuellement, d'accord, mais c'était plus pour le faire collectivement dans le cadre de la Trinité. Lorsque Dieu nous dit que, ou plutôt lorsque la Bible nous dit que nous adorons Dieu en esprit, en vérité, eh bien nous adorons pas simplement le Père, mais quand nous adorons Dieu, nous adorons le Père, nous adorons le Fils et nous adorons le Saint-Esprit. D'accord ? C'est dans ce sens-là. Alors bien sûr, le rôle de l'esprit est différent. On n'a pas parlé du rôle de l'esprit, mais comme vous l'avez mis très si bien souligné, le rôle de l'esprit, un des ministères de l'esprit, est vraiment de mettre l'emphase sur l'œuvre de Jésus-Christ. Mais il ne faut pas oublier par là même qu'il est lui-même Dieu, qu'il n'est pas inférieur à Jésus-Christ, que tous les trois sont ensemble, qu'il y a une complémentarité, qu'il y a une communion entre les trois, et que lui-même aussi est digne de notre adoration. Mais que cette adoration n'est pas déconnectée de l'adoration du Père et du Fils. Et c'est dans ce cadre-là. Parce que sinon, on risque effectivement de faire des choses ou d'aller dans un sens dans lequel l'Écriture ne va pas. Oui, tout à fait. Oui, peut-être, hein, ça pourrait pousser à cela, oui, pourquoi pas, oui. Hein, peut-être. Mais merci d'avoir posé la question.
Quelque chose que j'ai apprécié de ce que vous avez dit, m'a fait penser à ce que vous...
Tout à fait, c'est toujours ça pousse à un esprit de repentance. Et je précise que l'esprit de repentance est un esprit qui est constant. L'esprit de repentance, puisque vous tendez la perche, ne se manifeste au temps de la conversion, comme vous l'avez si bien souligné, qui est un réveil. Toute conversion est un réveil, normalement. Ou devrait être un réveil. Bien sûr, il y a différents degrés, mais toute conversion est un mini-réveil en soi, puisque Dieu nous réveille, il nous secoue, il nous sort de nous-mêmes. Mais cet esprit de repentance continue après tout au long de la vie. Il est toujours présent. D'ailleurs, plus on grandit avec le Seigneur, plus on s'approche de lui, plus on vit des expériences avec lui, normalement plus on se repent, parce que plus la lumière est présente en nous, et par conséquent, plus nous voyons aussi différents points. Mais c'est un esprit qui n'est pas un esprit mauvais, dans le sens que c'est pas un esprit qui nous pousse à nous culpabiliser sans cesse, ça c'est pas le bon esprit, d'accord ? C'est un esprit de réveil, en même temps un esprit de grâce, qui nous fait changer, qui nous fait avancer, qui nous transforme. C'est ça qui est important. Mais c'est vrai que c'est vraiment une des caractéristiques de tout esprit de réveil. Et à ce titre-là, je vous encourage à lire un excellent ouvrage qui s'appelle « Le souffle du réveil » de Blanche Dupré. Alors, j'aime bien cet ouvrage parce que c'est un 4 réveils successifs qui ont eu lieu au Burkina Faso dans les années 60-70. Alors, j'aime bien le Burkina parce que j'y suis allé déjà 5 fois, et dont 3 fois là en 10 mois. Donc, un petit pays... en Afrique de l'Ouest, qui est intéressant et qui a connu un réveil. Et c'est intéressant parce que Blanche Dupré est la femme d'un pasteur d'ADD, des Assemblées de Dieu, qui sont allés là-bas, ils ont connu effectivement 4 réveils successifs, et elle met vraiment en évidence que chaque fois que l'Esprit de Dieu soufflait, il y avait toujours cet esprit de repentance qui soufflait, et en même temps, il y avait toujours de l'opposition qui était là, parce qu'il y en a qui ne voulaient pas rentrer dedans, il y en a qui avaient peur de tout cela, et parce que quand l'Esprit de Dieu souffle, il y a toujours un aspect déstabilisant. Et c'est peut-être pour ça que nous autres chrétiens, nous avons parfois peur de l'Esprit, parce que l'Esprit, on ne le contrôle pas. Et nous autres êtres humains, et moi je sais pour ma part, j'aime bien contrôler les choses. Et quand je ne peux pas contrôler, ça déstabilise. Et l'esprit, eh bien, il déstabilise. Mais en même temps, il faut se dire qu'il ne poussera jamais à aller dans des directions qui sont mauvaises et qui vont nous éloigner de Dieu. Bien au contraire. C'est ça qu'il faut se dire. Et en même temps, entrer dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous déstabilise, c'est embêtant. Parce qu'on n'aime pas être déstabilisé. Parce qu'on a tous nos plans, nos schémas, nos idées. Qu'on pense être les meilleurs, et puis finalement, des fois, le Saint-Esprit va dire, là, c'est pas ça, c'est là-bas, ça se passe. Ah, je dois faire demi-tour, ah, je dois demander pardon, ah, mais pourtant, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, eh bien non, mon cher, c'est maintenant, c'est là-bas. Il y avait une autre question, madame ? Eh bien, ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on loue Dieu, Dieu, je te loue, Qu'est-ce que vous avez à l'esprit quand vous dites « Dieu, je te loue » ? Souvent, ce qu'on va avoir à l'esprit, c'est le Père, d'accord ? En pensée sous-entendue, Dieu le Père. Certains chants, c'est explicite, mais d'autres chants, c'est pas explicite. Quand je dis « Dieu, je te loue », je loue Dieu le Père, je loue Dieu le Fils et je loue Dieu le Saint-Esprit. D'accord ? Dieu, je te remercie pour ta création. Eh bien, je remercie l'ensemble de la Trinité divine. C'est dans ce sens-là. D'accord ? Après, c'est une question de culture ecclésiale, j'allais dire, de culture d'église. Mais si on veut, comme vous le soulignez, favoriser une certaine expression de foi, il faut se donner les moyens. Et pour se donner les moyens, il faut trouver des lieux qui permettent une expression libre. Et en même temps, une expression libre qui n'aille pas dans tous les sens. D'accord ? Où chacun est prêt à se laisser interpeller ou reprendre si besoin. Et effectivement, comme vous le soulignez, le cadre de groupe de maison, de cellule de maison, appelez ça comme vous voulez, peut être, je dirais, un bon démarrage, dans le sens que on se connaît les uns les autres, et le fait qu'on ne soit pas nombreux permet aussi une meilleure expression. Et après, si ça se fait dans le cadre de l'Église, il faut aussi trouver le moyen de le faire. Après, c'est à chaque Église de réfléchir et de se dire « mais comment est-ce que je vais vivre les choses ?» D'accord ? Et là, c'est le leadership de l'Église qui doit donner le « là ». C'est le leadership qui doit donner le « là » et qui doit dire « voilà ce que nous vous proposons ». Nous ne voulons pas étouffer, nous pensons comme ci, comme ça. Et après, on peut toujours réajuster. D'accord ? Et après, c'est en fonction du leadership de l'Église qu'on va agir. Moi, je travaille en fonction, par exemple, des églises où je vais. Si je reçois une pensée pour quelqu'un, je vais voir si cette personne est ouverte, je vais voir si l'église est ouverte et je vais travailler. Je ne veux pas travailler contre, faire un travail contre-productif, d'accord ? Emmener des gens là où ils veulent pas aller, par exemple. Donc, on est obligé de travailler avec. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Saint-Esprit le sait très bien et que de toute façon, il nous parle, il peut toujours nous parler. Donc, en fonction de l'ouverture que nous avons et aussi en fonction de ce que nous mettons en place, des systèmes que nous allons permettre pour que l'expression puisse se vivre. Mais effectivement, des groupes de maison peuvent être un bon endroit. Et puis, comme vous le soulignez, la pensée aussi qu'on reçoit, tout dépend comment est-ce qu'on dit les choses. Moi, ça m'est arrivé des temps de prière, je prie pour des gens, je reçois des choses, eh bien, je ne vais pas leur dire, voilà, ce que le Seigneur, ainsi parle le Seigneur maintenant. Non, je vais dire, voilà, j'ai une pensée pour vous, est-ce que ça correspond à quelque chose dans votre vie ? Et puis, effectivement, ça correspond pas. Et puis, parfois, on a peur de donner la chose aussi, et alors on passe à côté de quelque chose, et ça arrive aussi. Et puis, parfois, on prophétise sans s'en rendre compte. Allez, une ou deux dernières questions avant de clore. Madame ? D'accord. Eh bien, aujourd'hui, alors, effectivement, on se réfère à la Bible dans le sens, ça c'est pour asseoir les choses et montrer que, ben voilà, ça existait et apparemment c'est encore valable pour aujourd'hui. Ensuite, après aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Après, tout dépend de l'endroit, de la culture qu'on a dans l'Église, de ce qu'on dit, de ce qu'on ne dit pas, de ce qu'on enseigne dessus. Vous comprenez ? Je veux dire, si vous voulez que les gens donnent les pensées qu'ils ont reçues, il faut en parler. Si vous ne parlez pas du Jésus qui sauve, les gens ne vont pas être sauvés. Ok ? Si vous ne priez pas pour les gens pour qu'ils soient guéris, eh bien, vous verrez peu de personnes ou personne être guéri. J'ai pas dit que tout le monde, Dieu veut guérir tout le monde, d'accord ? Si maintenant vous parlez pas de la prophétie, vous expliquez pas comment ça peut se manifester, vous encouragez pas les gens dans ce sens-là, eh bien, l'esprit prophétique ne va pas forcément se manifester. Il est là, il peut être là, puisque je pars du principe que les chrétiens sont animés par l'esprit de Dieu, d'accord ? Je suis pas dans une démarche où je dis non, ils ont pas reçu l'esprit de Dieu. Je m'inscris pas là-dedans. Je dis voilà, il est là, il est présent. Mais est-ce que nous le laissons s'exprimer ? Est-ce que nous apprenons à reconnaître la voix de Dieu ? Est-ce que nous apprenons nous-mêmes ? Est-ce que nous savons comment Dieu nous parle à nous ? Savons-nous déjà personnellement comment est-ce que Dieu nous parle ? Vous allez me dire par la Bible, ok. Mais comment est-ce que nous entendons nous-mêmes la voix de Dieu ? Comment est-ce que Dieu nous parle aujourd'hui ? La prophétie, ça peut se manifester dans l'inspiration. Je prépare une pensée, tout d'un coup, que j'ai eu à cœur, que je partage dans un groupe. Ensuite, la prophétie peut se manifester dans le cadre de la prière, de la louange, où tout d'un coup, je vais avoir une pensée qui vient à l'esprit. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase qui vient, ça peut être aussi une image qui peut venir, qui est là et qui montre qu'il y a quelque chose pour quelqu'un ou pour la communauté. Ça peut se manifester de manière différente. Ça peut se manifester à travers un chant et une parole qui tout d'un coup, plusieurs personnes vont dire « Oui, mais c'est cette parole-là. Ah oui, ça répond à cette question que nous avions, qu'on se pose. » Vous comprenez ce que je veux dire ? Ben, je dirais oui et non, dans le sens que il y a quand même des choses qui se font, et dans le sens que après tout dépend ce que nous faisons personnellement de ce que nous lisons. Hein? Est-ce que nous sommes prêts à entrer, à découvrir de nouveaux aspects sur lesquels Dieu veut nous enseigner?
Hein? Le Saint-Esprit nous dit que toute chose que l'on fait, bien.
Bien sûr. Ah mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il peut nous emmener dans une direction. Mais souvent, lorsqu'il nous parle, il peut aussi effectivement nous dire la décision que vous avez prise ou la direction dans laquelle vous allez. Continuez, c'est ça, tout à fait. Merci de le souligner. Ouais, non, c'est pas de sens là, mais c'est bien de le souligner. C'est pas dans ce sens là que je m'inscris, hein. Le Saint-Esprit est pas là pour nous tirer les oreilles, nous reprendre, etc. Non, on travaille toujours avec la connaissance, avec la révélation de Dieu qu'on a. C'est comme ça qu'on travaille. Moi, c'est comme ça que je travaille. Je vais avec ce que j'ai, avec ce que je suis, avec ce que j'ai compris. Voilà. Et en même temps que je fais, j'avance, je vis, je comprends, je découvre de nouvelles choses. Et l'Esprit Saint montre, oui, effectivement, ça c'est bien, vas-y. Je confirme que c'est la direction. Puis parfois, il peut nous dire, eh bien, voilà, là, il y a quelque chose pour un tel, un autre. Oui, oui, c'est notre moteur, c'est notre énergie, notre personne clé. Allez, une dernière question. Adder. C'est bon? Mes chers, je vous remercie. J'espère que je vous ai pas trop déstabilisé. Et puis, si c'est le cas, tant pis. Hein? Si ça vous pousse à creuser la question. Rendez-vous ce soir, tant mieux, à 19h, à 20h30, pardon.